I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle Jonathan Chétrit, 17 ans. Je suis un jeune élève scolarisé au sein de l'école Haute Zaratora à Toulouse, insouciant, à des années-lumière d'imaginer ce que je vais vivre. Et à compter du 19 mars 2012, je suis un rescapé. J'ai 28 ans, je suis avocat de formation et je viens tout juste de raccrocher la robe, comme on dit, pour me consacrer à la marque de vêtements pour bébés que j'ai lancée il y a 2 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi au sein d'une famille de confession juive, entouré de mes 3 grands frères et ma grande sœur. Quelques mois avant mes 10 ans, j'ai perdu ma maman d'un cancer du sein. Et disons que les relations entre mon frère et moi, mon frère aîné qui a 2 ans et demi de plus que moi, se sont un peu détériorées avec le temps. La situation était un peu difficile à gérer pour mon papa qui s'est retrouvé seul à la maison pour nous éduquer. Heureusement que j'avais ma grande sœur qui a 16 ans de plus que moi qui nous a pris sous son aile. Mais c'est vrai que c'était quand même compliqué à gérer et mon papa a pensé à m'envoyer à l'école Haute Zaratora à Toulouse pour me permettre justement d'étudier dans un cadre plus serein. On est en 2007 et je me retrouve dans cette petite école toulousaine, donc il y a 200 élèves environ, de la 6e à la terminale. C'est une toute petite école, très familiale. Je suis absolument contre l'idée de quitter mes amis à Paris, mais j'ai pas le choix puisque j'ai que 13 ans. Et je me retrouve au sein de cette école où, effectivement, très vite, je sens une ambiance particulière. Et c'est vrai que je trouve un cadre que je n'ai pas forcément à la maison. Il y a l'étude du soir, on est suivi par des professeurs qui restent le soir pour nous aider à faire les devoirs. Il y a vraiment un cadre qui, à mon sens, est essentiel lorsqu'on a 13 ans pour se construire comme il faut. Et à la fin de l'année, c'est moi qui décide de rester dans cette école. Et mon père n'est pas contre, on en discute très peu, mais la décision est vite prise, et donc je reste pour le lycée. L'année de seconde se passe, et pour le coup, ça se passe très bien. Je suis enfin vraiment à ma place et à l'aise dans l'école. C'est très familial, on prend le temps de discuter avec les enseignants, on est très peu en classe, donc c'est parfois presque des cours particuliers. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que cette école, c'est pas une école comme les autres. Et moi, je le ressens comme ça et je le vis de cette manière-là. Surtout que de vivre à l'internat, c'est encore autre chose. C'est presque la colonie, mais toute l'année avec les cours au milieu. On a des conditions quand même très bonnes pour vivre en tant qu'adolescent. Avant d'être un élève, je suis quand même un enfant très sage. Je fais pas trop de bruit. J'ai mon petit caractère et disons que je suis parfois à l'initiative de bêtises au sein de la classe ou autre, mais c'est jamais méchant. Et c'est toujours quand même raisonné et ça va jamais trop loin. Je suis un élève qui est assez assidu en classe. On a souvent tendance à me décrire comme l'élève parfait ou l'élève modèle qui a des bonnes notes, etc. Et c'est vrai que juste avant d'arriver à Haute Zaratora, je me perdais un peu avec les difficultés justement liées au décès de ma maman. J'ai vite retrouvé cette rigueur et même cette envie et cette motivation-là pour les cours lorsque je suis arrivé à l'internat. Et je suis un petit garçon qui adore dessiner, qui adore peindre. J'écoute tout le temps de la musique. Je suis un bon vivant, en fait. Je suis toujours le premier à rigoler. Je suis un bon public. Je suis un petit enfant qui aime bien rire, qui aime bien rigoler, qui grandit, qui a ses histoires de cœur. Comme tous les garçons à cet âge-là, au collège, lycée, voilà. J'y repense toujours avec le sourire parce que c'est des belles périodes et c'est des beaux moments où j'ai une image de moi d'un petit garçon qui a perdu sa maman quelques années auparavant. Forcément que ça a été très difficile. C'est jamais évident d'être confronté à la perte d'un parent, et surtout dans ces conditions-là, parce qu'elle était malade d'un cancer. Donc il y a des images qui marquent et on n'oublie pas. Mais je pense que c'est aussi ce qui m'a donné très vite cette envie de vivre pleinement et de pas perdre ma joie et mon dynamisme, et au contraire, de le cultiver et de rester un petit garçon avec plein d'entrain et de volonté. En juillet 2011, donc à la fin de ma classe de première, je sors dans la cour de récréation pour prendre l'air et je vois arriver un homme, une femme avec un bébé dans une poussette. Je comprends qu'il s'agit de Jonathan Sandler qui vient s'installer donc au sein de l'école puisqu'il occupera un appartement de fonction qui est dans l'internat. Et Jonathan Sandler sera professeur au sein de l'école pour l'année à venir. Et donc il est accompagné de son épouse Eva. L'été passe, et puis à la rentrée de septembre 2011, donc pour l'année scolaire 2011-2012, Jonathan Sandler est bien présent, et il se trouve que ma chambre se trouve sur le même couloir que l'appartement de fonction qu'il occupera. Et donc très vite, forcément, on se retrouve et on se reconnaît, on fait un peu mieux connaissance, et au cours de l'année 2011-2012, je vais avoir l'occasion de garder plus d'une fois ces enfants, donc Arié, Gabriel et Liora, parce que quand Eva et Jonathan ont besoin de sortir ou autre, ils vont venir toquer à ma porte, et puis ils viennent et ils me disent « Jonathan, ça te dérange pas de jeter un œil sur Arié, Gabriel ?» On va commencer à nouer des liens forcément de plus en plus forts avec le temps. Et puis en fait, comme je l'expliquais, au Zaratora, c'est une grande famille. Et donc, Arié et Gabriel, qui vivent dans cet appartement au sein même de l'école, se retrouvent forcément plus d'une fois dans la cour de récréation avec nous. Et puis, il y a Myriam, mon sonego aussi, qui est la fille du directeur, qui elle aussi, évidemment, est scolarisée donc dans la même école que Arié et Gabriel, et qui se retrouve forcément, elle aussi, dans l'enceinte de l'établissement lorsqu'elle finit sa journée de classe, qu'elle vient retrouver son papa et sa maman, puisque sa maman travaille aussi au sein de l'établissement. Et donc, en fait, on va passer du temps avec eux. Mon année de terminale débute, franchement, dans un cadre parfait, où tout se passe très bien, où je retrouve mes enseignants, on est tous hyper motivés et déterminés pour avoir notre bac. C'est quand même l'objectif à la fin de cette année. Et on passe vraiment un début d'année parfait. Le lundi 19 mars 2012, mon réveil sonne comme tous les matins, il est 6h30. Donc il y a une musique très connue qui sonne sur mon téléphone, qui me réveille. C'est Just Can't Get Enough de Black Eyed Peas. Et ce lundi 19 mars 2012, je suis à des années-lumière d'imaginer ce que je vais vivre dans l'heure qui suit. Je vais prendre ma douche, comme tous les matins. Donc 7h15, j'aime bien être assez tôt au petit déjeuner. Je descends, je suis au dernier étage, je passe devant l'appartement du coup de Jonathan Sandler. J'entends du bruit, les enfants qui sont en train eux aussi de se préparer pour leur journée de classe. Je me souviens encore quand je traverse la cour de récréation qui me sépare du réfectoire. Il fait un peu frais, je lève la tête, je vois qu'il fait un peu gris. Je me souviens encore de ma tenue, j'avais mon gilet. Il y a des détails comme ça qu'on n'oublie pas, alors que c'est un moment complètement anodin. Et cette cour, je l'ai traversée des centaines de fois, pour pas dire des milliers de fois. Mais ce matin-là, je me souviens encore de la météo, du temps, du ressenti, etc. Je commence à prendre mon petit déjeuner. Il y a deux copains qui sont là. Il y a peu de monde parce qu'il est très tôt. Et à ce moment-là, il y a la voiture du directeur qui arrive, qui se gare. Et Myriam Monsonego qui descend, puisque son papa, qui habite à 5 minutes en voiture de l'école, a pour habitude de venir le matin pour la prière. Et parfois, il lui arrive d'être avec sa fille Myriam. Myriam, elle a 8 ans. Quand elle sort de la voiture, c'est Myriam dans toute sa splendeur. Parce que Myriam, nous, on avait l'habitude de l'appeler l'ange. Elle a ses beaux yeux bleus, elle a ses cheveux blonds, elle a sa belle robe sur elle, elle a ses collants. Elle est toujours très élégante, toujours très bien habillée, toujours très bien coiffée. Elle est toujours radieuse. Où elle va, elle illumine tout sur son passage. Quand on voit Myriam, on voit ce petit ange blond passer. Et elle sort donc de la voiture de son papa avec sa petite robe, ses collants. Elle est bien coiffée, elle est radieuse, elle a un grand sourire sur son visage. Et donc son papa fait le tour, prend son sac à dos rose qu'il met sur son épaule. Donc elle traverse en fait la baie vitrée qui se trouve devant moi et puis elle s'en va en sautillant. Et je dis à mes deux amis qui sont en face de moi, regardez comment il est mignon avec Myriam, Monsieur Monsonego, il porte son sac. Ah, c'est une remarque un peu bête et ça n'a aucun sens, mais à ce moment-là, j'ai 17 ans et je trouve ça mignon de voir le directeur avec le sac rose de sa fille sur ses épaules, puis Myriam qui s'en va comme ça en sautillant. Quelques minutes après, je termine de prendre mon petit déjeuner, j'ai envie de me resservir du lait, il n'y en a plus. Et c'est tout bête, mais à ce moment-là, en bonne interne, ça m'énerve et je grogne un peu en disant « il n'y a jamais assez, il n'y a jamais ce qu'il faut ». Et j'ai tendance à croire que cette tasse de lait, elle m'a peut-être sauvé la vie parce que à quelques minutes près, si j'avais eu le temps de prendre une autre tasse de lait, je ne sais pas où je me serais retrouvé. Et donc, je pose ma tasse dans la bassine et je quitte le réfectoire. Je traverse l'école par l'intérieur cette fois-ci pour me rendre à la synagogue. Et lorsque je rentre dans le hall de la synagogue, je tombe sur deux copains de classe. Et là, le directeur, donc Monsieur Monsonego, rentre dans le hall de la synagogue. On comprend que c'est le début de la prière et que du coup, il faut y aller. J'ai pour habitude de prier tous les matins à la même place au sein de la synagogue. Et ce matin-là, du coup, il y a un papa qui est là et qui a pris ma place. Le fait de devoir prier à une autre place va me donner une vue plus dégagée sur la cour et sur l'entrée de l'école que si j'avais prié à ma place habituelle. Et ce qui est assez marquant aussi, c'est que donc tous les matins, on récite avant le début de la prière une prière qui est dédiée pour les morts. Et donc les personnes endeuillées qui ont perdu un proche dans l'année récitent cette prière à plusieurs moments. Et en fait, je suis en train de commencer à m'installer, à prendre mon livre de prière. Et c'est à ce moment-là que on entend les coups de feu. Je pense tout de suite à des pétards, puisque c'est une rafale de coups de feu qu'on entend. Et ça me fait penser à une mitraillette de pétards que moi-même, enfant, j'avais l'habitude d'allumer pour le 14 juillet ou pour d'autres occasions. Et je me dis, franchement, ils sont lourds. Tellement pas le moment d'allumer des pétards, il est 8h du matin, les voisins vont grogner, et si le directeur il entend ça, il va pas apprécier non plus. Et donc, de ma place, j'ai cette vue un peu dégagée sur l'entrée de l'école, et je vois une agitation dans la cour. Rien d'extraordinaire, mais je vois des enfants courir, il y a un mouvement quand même. J'essaye de comprendre ce qui se passe, mais c'est pas évident à ce moment-là. Et quelques secondes après, j'entends des coups de feu. Alors cette fois, c'est des coups de feu bien distincts. Là, je comprends quand même qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Ça me semble plus être de simples pétards. Et donc, je porte mon regard vers l'extérieur et j'essaye de comprendre. Et je le vois, donc le terroriste, qui s'appelle Mohamed Merah, que je ne citerai plus par la suite. Je le vois entrer, il est habillé tout en noir, avec son casque blanc. J'ai ce souvenir, en fait, d'une démarche très calme et très froide, mais au milieu d'une agitation quand même. Je vois des élèves courir, mais lui, il est quand même dans un calme absolu au milieu de cette agitation. Et la première idée qui me vient en tête, c'est de me dire « Ah, il y a un livreur qui vient déposer un colis pour un interne. » Et donc je me dis « Franchement, trop de la chance, il y a un interne qui va avoir un super colis de ses parents. » Parce que, encore une fois, c'est tellement impossible d'imaginer ce qui est en train de se passer que la première explication rationnelle, c'est celle-ci, en tout cas pour moi. Forcément, à ce moment-là, il a son arme dans la main, mais je ne vois pas son arme, il est quand même assez loin. Mais en fait, la chance que j'ai eue d'une certaine manière, c'est que lorsque j'entends les coups de feu, le temps de porter mon regard vers l'extérieur, il arrête de tirer. Lorsque je reporte mon regard à l'intérieur, ça recommence. Et j'ai ce va-et-vient plusieurs fois, entre intérieur-extérieur, intérieur-extérieur, en essayant de comprendre. Il y a un moment très difficile que pendant de nombreuses années, je me suis presque interdit de raconter parce que j'avais peur de faire du mal ou peur de raconter quelque chose dont les souvenirs sont trop imprécis. J'ai ce souvenir en fait de voir Myriam avancer dans la cour et de le voir juste lui derrière. À un moment, j'associe quand même les coups de feu, cette personne et puis Myriam. Mais ça va tellement vite, ça se passe en une fraction de seconde finalement, que j'ai pas le temps de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Et à un moment, il y a la CPE qui arrive en hurlant, et c'est à ce moment-là que lui fait demi-tour. Alors on n'a pas beaucoup d'explications sur le pourquoi de son demi-tour. On sait que sa mitraillette qu'il a utilisée en premier lieu s'est enrayée. Donc c'est ce qui l'a empêché finalement de faire plus de victimes. Et qu'il a ensuite utilisé un pistolet lambda. Mais en tout cas, il fait demi-tour. Et donc la CPE croise son chemin inévitablement. Et je la vois mais débarquer en hurlant sa tire. Et même avec ça, ça paraît impossible. Et donc je sors à sa rencontre. Et en fait, on se retrouve à mi-chemin, mais je suis quand même dans le hall de la synagogue. Et là, encore une fois, c'est quelque chose de difficile et sur laquelle je reviens rarement, mais il y a Myriam derrière. Je sais que je la vois, je sais qu'elle est là, parce qu'elle a été touchée et qu'elle a été tuée, en fait, sur le coup. Mais je suis plus concentré sur l'information qu'elle m'apporte que sur Myriam, et je l'associe pas du tout à ce moment-là. Il y a un tireur dans l'école, et Myriam Monsonego, et même ce que j'ai vu avant. C'est encore très flou. Et donc, je vais à sa rencontre, elle hurle au visage, « Cachez-vous, cachez-vous, il y a un tireur dans l'école. » Et ma première réaction, c'est d'aller prévenir le directeur. Mais c'est quelque chose de très maladroit, et même encore aujourd'hui, je m'en veux parfois parce que je l'ai conduit directement vers sa fille Myriam. Et donc je rentre dans la synagogue, je cours voir le directeur, je lui dis « il y a un tireur dans l'école, c'est pas une blague ». Et je n'oublierai jamais son regard et la manière dont il me regarde à ce moment-là. Il lâche tout ce qu'il a entre les mains et il sort en courant. Sauf que forcément, quand il sort, il tombe sur sa fille Myriam, qui est au sol. Et on l'entend depuis l'intérieur de la synagogue pousser des cris de peine et de douleur. Je laisse pas mes émotions prendre le dessus. À ce moment-là, je suis dans l'opérationnel, mais vraiment à 100%. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle je pense, c'est de me dire « je sais pas s'il est reparti, je sais pas s'il va revenir, même s'il est reparti, et je sais pas s'il est seul ou s'il est accompagné. » Et donc je suis dans un flou complet, et je me dis « il faut mettre en sécurité les enfants. » Il y a trop d'enfants dans la synagogue, en tout cas de jeunes adolescents. Moi, j'ai une position un peu délicate, je trouve, à ce moment-là, parce que je suis en terminale, donc je suis le plus grand, et pourtant, je suis qu'un enfant. Et les enfants, naturellement, viennent vers nous. Alors, je suis pas le seul élève de terminale, on est 3 ou 4, mais on est très peu. Je pense à l'issue de ce cours qui se situe à l'exact opposé de l'entrée de la synagogue. Donc, je me dis déjà, on va aller à l'endroit le plus loin de tout ce qui est en train de se passer. Donc, j'ouvre cette issue de ce cours. Il y a un professeur qui est là, qui est en train de prier, et donc je vais le voir et je lui dis « on se lâche pas ». On se retrouve donc à l'arrière de l'école. C'est une sorte de bande de béton qui longe en fait tous les bâtiments de l'établissement et qui conduit d'ailleurs d'un bâtiment à un autre. Et on est une dizaine. Il y a un élève qui vient et qui se met à pleurer dans mes bras en me disant « je veux pas mourir, je veux pas mourir ». Et moi je tiens encore, je tiens bon. Et je lui dis « tu vas pas mourir ». T'inquiète pas, on va pas mourir, on va s'en sortir. Mais il faut agir et il faut... En fait, à ce moment-là, moi, j'essaye juste de calmer ceux qui commencent à craquer. Parce que le fait de sortir, déjà, ça donne la possibilité aux plus jeunes de se laisser aller. Mais c'est pas le moment non plus, donc j'essaye de les ressaisir. Il y a des voisins qui habitent vraiment juste en face, qui sont sur leur balcon. Le professeur avait dit, mais appelez les pompiers, appelez la police, il y a des gens qui meurent. C'est une phrase, franchement, c'est de l'entendre. Et puis à ce moment-là, surtout, on sait pas. Alors moi, j'ai Myriam en tête pendant tout ce temps, parce que je commence à comprendre. Mais je sais pas encore que Jonathan, Arié et Gabriel ont été touchés et qu'ils sont morts. Et il y a Brian Bijawi, qui est un ami de l'internat, qui a été touché par balle. À un moment, je regarde un des copains avec qui je suis en classe. Très naturellement, on se dit, on peut pas rester là. On est trop exposé, en fait. S'ils arrivent à 10, on est cerné, donc il faut se cacher. Et on a une idée qui nous vient comme ça très rapidement, c'est qu'il y a une réserve dans un autre bâtiment de l'école. On regarde les enfants, on leur dit on va aller se cacher dans la réserve, donc on va courir en espérant que la porte soit ouverte. On se met à courir et on a de la chance, la porte est ouverte, c'est pas le cas tous les jours et c'était pas gagné d'avance. Donc on rentre dans cette réserve et là, les élèves, en tout cas les plus jeunes, se laissent aller et relâchent tout le stress qu'ils ont, mais du coup, ils font un bruit monstrueux. Moi, je suis pas serein non plus encore. Donc avec le professeur avec qui je suis depuis le début, on se met dans une petite salle à l'intérieur de cette réserve. Et c'est là, pour ma part, que j'appelle mes proches. Et donc la première personne que j'appelle, c'est ma sœur, parce que j'ai une relation très particulière avec elle. Et donc je l'appelle et je lui dis « je peux pas te parler longtemps, mais il y a un tireur dans l'école. » Moi, je m'en souviens pas, mais elle me dit qu'à ce moment-là, je lui dis que Myriam Monsonego est morte. Mais c'est quelque chose de très révélateur. Et c'est pour ça que je pense que je l'ai vu et que je l'ai su depuis le début. Mais je me souviens pas, et pourtant, elle l'affirme avec certitude qu'à ce moment-là, je lui dis « Myriam, son égo est morte ». Et derrière, j'entends mes nièces gazouiller, et c'est ce qui me fend le cœur à ce moment-là, c'est de me dire « En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment des adieux, et que en fait, je ne sais pas si je vais les revoir ». J'ai encore cette crainte et cette angoisse qu'ils reviennent ou qu'ils ne soient pas partis. À ce moment-là, j'ai peur de mourir. Dès le moment où, de toute façon, je vais ouvrir la porte de l'issue de secours et dès le moment où je me retrouve sur cette bande de béton-là, à l'arrière de l'établissement, j'ai ce sentiment que je vais mourir. Et en fait, c'est ce sentiment-là, d'ailleurs, qui me causera beaucoup de difficultés par la suite. Mais ce sentiment, en fait, de penser pleinement et sincèrement que sa vie est en danger et qu'à tout moment, on peut mourir par un homme armé venu dans son école, ce sentiment, il est terrifiant. L'adrénaline qu'on ressent, les palpitations, le cœur qui s'emballe, les tremblements, c'est tellement violent comme sentiment. Et quand on est dans cette réserve, je suis dans cet état-là, qui est un peu un état de transe. Alors je garde encore le contrôle et je craque pas. Et je dis au revoir à ma sœur au téléphone, je lui dis je t'aime et je raccroche. Pour moi, il y a une chance sur deux que je ne les revois plus. J'essaye de joindre mon papa que j'arrive pas à avoir. On reste quelques minutes dans cette réserve, ça passe quand même assez vite, et en fait on a l'information par d'autres élèves qui sont à l'extérieur qui nous disent « vous pouvez sortir, il y a la police qui commence à arriver tout juste, donc vous pouvez sortir ». Donc on sort de cette réserve, et à ce moment-là on est conduit dans le réfectoire au sein duquel je prenais mon petit déjeuner une demi-heure avant. Ce moment-là qu'on va vivre dans le réfectoire, c'est un des moments les plus douloureux de cette journée. On est une trentaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il y a des professeurs qui sont là, des enseignants, des surveillants, qui font leur maximum pour à la fois être avec nous, s'occuper de nous, et gérer la catastrophe de l'autre côté avec la police, les pompiers. Mais on va vivre 3 heures où on va passer à travers tous les sentiments. On va avoir des crises d'angoisse. Il y a certains élèves qui hurlent, qui se tapent la tête contre le mur, qui frappent même contre le mur de colère, de peine, de douleur. Il y a des élèves... et beaucoup en partie des élèves internes d'ailleurs, et j'en profite pour en parler parce que ça me tient à cœur aussi de leur rendre hommage d'une certaine manière, qui ont tout de suite été chercher Arié, Gabriel, Myriam, qui les ont portés, qui les ont placés côte à côte dans le hall de la synagogue, qui leur ont fait du bouche à bouche, des massages cardiaques, qui se sont occupés d'eux. Mais je parle d'enfants de 15-16 ans qui ont géré la situation avec tellement de force et de courage. Et en fait, on se retrouve avec ces élèves-là qui ont leurs vêtements tachés de sang. Et forcément, ça ramène à la réalité de façon assez brutale. Les informations, elles nous parviennent de manière discontinue jusqu'à ce qu'il y ait une annonce officielle. On n'a jamais vraiment de certitude. Quand on se retrouve avec eux dans le réfectoire, on a des confirmations. Ils nous disent « c'est Arié, c'est Gabriel, c'est Jonathan, c'est Myriam ». Mais j'ai cet espoir auquel je me raccroche, mais très fort, en me disant « c'est pas possible, ils sont pas morts, et ils vont être sauvés, ils vont... c'est pas possible ». Et on se regarde tous entre nous en se disant « c'est pas possible ». Enfin, c'est là en fait que ça devient difficile, c'est qu'on va avoir des officiels qui vont commencer à arriver, et on leur pose des questions, et ils veulent pas nous répondre. Et on comprend bien que le fait de pas vouloir répondre à ces questions, bah finalement la réponse sont là. Et donc ça génère des crises de pleurs. Il y a même un ami qui me racontera un peu après « Tu t'es tapé la tête contre le mur, c'est moi qui suis venu t'arrêter. » Et je m'en rappelle pas. En fait, on était touchés de manière tellement brutale. Il n'y a plus rien qui paraissait réel et normal. Il n'y avait plus de logique. On était en train de vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais cru vivre dans notre vie. Et ça nous arrivait à nous, un lundi matin, mais tout à fait banal. Je pensais que cette journée elle allait être normale, voire plus normale qu'une autre. Et en fait, c'est la journée qui a marqué nos vies pour toujours. Et quand on est dans ce réfectoire, à mon sens, c'est le moment où on prend conscience de tout ce qui vient de se passer. Même s'il faudra des mois et des années pour vraiment comprendre, mais là, c'est les premiers instants où vraiment on comprend ce qui s'est passé. À ce moment-là, on comprend très clairement que Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam sont décédés et ont été tués par balle de sang-froid par ce terroriste qui est venu ce matin dans notre école. Et on prend conscience de tout ce que ça représente et de tout ce que ça implique, c'est-à-dire un attentat, la volonté de toucher des juifs au sein de notre école. Quelques minutes après être rentré dans ce réfectoire, moi, pour ma part, je vis vraiment très mal ce moment. Et je me dis, et je me souviens encore de la réflexion, de comment j'ai réfléchi, je me suis dit, moi j'y vais. Je sors de l'école, je pars, j'en peux plus en fait, j'étouffe. Et donc je sors par la porte et je me retrouve finalement à l'endroit où le directeur est arrivé une heure avant avec sa fille. Et donc je vais vers l'entrée de l'école et je cours presque en me disant, moi ça y est, enfin, je craque. Et en fait, quand j'arrive vers l'entrée de l'école, je tombe sur une scène de crime avec des flaques de sang au sol, avec des corps qui sont encore là dans le hall de la synagogue. Et en fait, ça me coupe dans ma course. Je me sens vaciller presque à ce moment-là. Et il y a une personne, et je ne sais toujours pas qui est cette personne aujourd'hui, mais il y a une personne qui m'attrape par le dos et qui me fait faire demi-tour, en fait. Donc, je fais volte-face et qui presque me porte et me reconduit à l'intérieur de ce réfectoire. Et le retour à l'intérieur de ce réfectoire, il est encore plus difficile. Et c'est là que ça va être une des premières fois où je vais craquer. Parce que quand je rentre pour la deuxième fois dans ce réfectoire, je tombe sur un élève qui est assis sur une chaise, qui a 13 ans. Et cet élève, il se tire les cheveux, presque il se griffe le visage, et il hurle, elle est morte, je l'ai vue, elle est morte, Myriam. Et en fait, je vais vers lui et je le supplie presque de se calmer. Et je lui dis, je t'en supplie, calme-toi, je t'en supplie. Et en fait, il n'y a rien à faire, et je comprends de toute façon qu'il n'y a rien à faire. Je lui attrape les mains et je m'assois par terre à ses genoux et je pleure avec lui. Et c'est un des premiers moments où vraiment, en fait, je m'autorise un peu moi aussi à pleurer. On a effectivement à un certain moment quand même une sorte de confirmation officielle des décès de Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Et donc forcément, on repart dans des crises de pleurs et autres parce que les nouvelles sont trop dures à encaisser à ce moment-là. On est escortés tous ensemble pour sortir de l'établissement. Et à ce moment-là, les policiers, à mon sens, font une erreur, ou en tout cas les pompiers qui sont présents, qui n'est pas grave, mais ils nous disent, surtout quand vous sortez, vous baissez la tête et vous regardez pas. Mais en fait, de dire à un enfant, ne regarde pas, je pense que comme toute personne, bah, on regarde. Et donc, on sort de l'école, le corps de Jonathan est encore là. Il est recouvert, mais il est là. Et le plus marquant et le plus difficile au moment de la sortie, c'est que la rue Jules Dallou est une rue qui est légèrement inclinée. Et en fait, il y a le sang qui coule tout le long du trottoir. Il y a une amie de l'école qui est présente, qui n'était pas là au moment où ça s'est passé. Et c'est un peu mon premier contact avec l'extérieur. Un visage familier, quelqu'un que j'apprécie, avec qui je sais que je suis en confiance. Et en fait, je cours dans ses bras et je m'effondre. Et c'est enfin la vraie libération pour moi, c'est ce moment-là. Je crois que je pleure à ce moment-là comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Juste après qu'on soit sorti de l'école, il y a les parents d'un élève qui me prennent avec eux. On va chez mon ami, c'est un ami avec qui je suis en classe de terminale, donc on se connaît vraiment bien. Je me souviens du trajet en voiture pour aller chez eux. En fait, j'avais l'impression de même pas être moi, ni moi-même dans mon propre corps. J'avais l'impression d'être complètement déconnecté. Il y a ma sœur et mon père qui ont pris un avion et qui étaient en train d'arriver à Toulouse. On est retourné les chercher en voiture. Et très vite, c'est organisé une cérémonie au sein du centre communautaire juif de Toulouse. Il y a, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais on doit être 300 ou 400 personnes dans un énorme réfectoire, dans le grand réfectoire de l'école. Et il y a les petits linceuls qui sont là. C'est tellement irréel. En fait, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est un film, quoi. Mais il y a une sorte de distance parce que c'est trop violent. En fait, c'est pas possible que dans ce linceul, il y ait Myriam et que dans celui-ci, il y ait Arié, que juste à côté, il y ait Gabriel et que le grand linceul posé, ce soit Jonathan. C'est juste pas possible. Et on est quand même présents, tous ensemble. On rentre avec mon ami en milieu de la nuit. Forcément, c'est la première nuit, donc on dort très mal et très peu. Je me souviens que je suis dans la chambre d'amis qui m'a été attribuée par les parents. Et en fait, je me souviens que je suis incapable de dormir. et que en fait j'ai tout qui me revient dans ma tête et les sons, les bruits, les images, je me repasse toute la scène, mais en boucle, en fait, je recommence tout depuis le début. Et dès que c'est fini, je recommence. Et parce que j'essaye de vraiment comprendre, mais est-ce que vraiment c'est ce que j'ai vu? Est-ce que... Et j'essaye de figer aussi quelque part ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, même si je comprends bien que ça bougera pas. Donc ça fait à peine 24 heures que ça vient de se passer, c'est encore tellement frais. Il faut retourner à l'école et là, c'est ce qu'on appelle donc la levée des corps, puisque l'enterrement aura lieu le mercredi en Israël et que donc les corps vont être conduits à l'aéroport puis en Israël. Et donc il y a ce moment où les corps sont placés dans les voitures et on accompagne tous. C'est un moment encore tellement douloureux. On comprend que c'est les derniers moments qu'on est en train de vivre avec eux. Mais je pense qu'on est tous tellement meurtris. Et je pense qu'en fait, on ressent un sentiment de peine extrême. Le jeudi matin, le directeur qui vient d'enterrer sa fille, donc le jour même, avant même de partir en fait en Israël pour l'enterrement de sa fille, avait demandé au professeur de bien vouloir réouvrir l'école le jeudi matin. Et je dis toujours que je pense que d'abord c'est ce qui nous a sauvés et je salue toujours le courage du directeur et cet amour qu'il a toujours eu pour nous de se soucier de nous alors qu'il est en train de préparer l'enterrement de sa fille. Et je fais partie de ces élèves-là qui retournent à l'école le jeudi matin. J'ai cours de mathématiques, on rentre en classe, donc la prof commence à parler. Mais on sent déjà qu'elle est pas à l'aise et qu'elle est forcément très touchée elle aussi. Et il y a une amie qui se met à pleurer, une autre personne qui se met à pleurer, je me mets à pleurer. Et en fait, on se retrouve à pleurer. Et donc, la prof nous regarde et dit « C'est bien ce que je pensais, je vais chercher une psychologue. » Et donc, elle va chercher une psychologue qui va venir pendant 3 heures. Au lieu de faire 3 heures de maths, on va faire 3 heures de séance collective où on va essayer de mettre des mots sur les mots, comme on dit. On va essayer de comprendre ou en tout cas de parler. Je pense que la meilleure thérapie et notre meilleur soutien, c'est nous, entre nous. Et donc, on va par la suite d'ailleurs avoir beaucoup de moments où on se retrouve et on n'a même pas besoin de parler. Mais juste le fait d'être ensemble, ça nous permet de guérir ou en tout cas de nous consoler, de nous épauler, de nous apporter du soutien. Alors quand on apprend que le terroriste est mort, quand on est en cours, donc c'est le jeudi, on apprend qu'il se fait tuer par la police, aucune réaction. Ni un soulagement particulier, ni une joie, ni... En fait, je pense que la seule chose qui nous a rassurés, c'était de savoir qu'il pouvait plus commettre d'autres attentats ou assassinats, etc. Le fait de se sentir en sécurité, mais pas d'apaisement ou lié à un sentiment de vengeance et de se dire « bah super, il a tué, bah maintenant lui aussi il est mort ». Je pense qu'on n'a jamais été dans cet état d'esprit et ça nous importait presque peu finalement qu'il soit tué. La reconstruction, je dis toujours que c'est pour la vie et qu'il n'y a pas de date de fin et qu'il n'y a pas surtout de date de début. C'est presque un travail qu'on décide d'entreprendre inconsciemment ou en tout cas on comprend à un moment qu'il faut avancer. Se dire ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Qui je suis et qui je veux devenir et comment je vais faire pour le devenir? Je vois aujourd'hui que ça fait 11 ans. Forcément, je découvre certaines choses encore et c'est en vivant de nouvelles choses que je comprends parfois que ah bah ça, je pensais que c'était réglé, mais en fait non. Je pense que la reconstruction, c'est tous les jours et c'est chacun à son rythme, chacun avec ses moyens. En perdant ma maman à l'âge de à peine 10 ans, je pense que j'ai quand même compris que on n'était pas à l'abri de la perte de proches, que rien ne nous est dû et que rien n'est acquis. Tout peut basculer d'une minute à une autre. Je pense que le fait d'en avoir conscience, ça permet justement de se dire « Ok, vu qu'on est à l'abri de rien et vu que tout peut basculer, alors je vais faire en sorte que ma vie elle soit pleine et que ma vie elle soit bonne. » Et s'étendre en tout cas à devenir la meilleure version de soi-même et à s'améliorer, etc. Lorsque ça s'est passé, je me suis tout de suite projeté en tant que parent et je me suis dit « Mais comment je vais faire quand je vais devoir amener mes enfants à l'école ?» Et en fait, on comprend que rester dans des questionnements comme ceux-là, c'est pas la solution, en fait. Ça permet pas d'avancer. Je pense que c'est bien de se poser ces questions, parce que c'est ce qui permet aussi de se reconstruire. Mais justement, il faut pas que tout tourne autour de ça. Il faut justement trouver la force dans ce drame de se dire « Ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais moi, si je suis là aujourd'hui, j'ai une chance inouïe d'avoir été épargné, parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes amis qui étaient présents aussi. » Enfin, on a eu cette chance de nous être épargnés ce matin-là. En fait, il faut se lever et il faut y aller. Il faut foncer, il faut avancer, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut pas avoir de regrets, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, il faut prendre dans les bras les gens qu'on aime. Et c'est pas évident, hein. Moi je dis ça, je suis quelqu'un de pas très démonstratif, j'ai beaucoup de pudeur, etc. Mais justement, parce que j'ai pris conscience de tout ça, j'ai compris aussi qu'il fallait que je travaille sur ces points-là et que faut pas avoir de regrets, je veux pas avoir de regrets demain. Je pense que le stress post-traumatique, il est forcément très violent et très fort dans les jours, les mois, même l'année qui suit l'attentat. Il se dissipe un petit peu avec le temps, ou que ça s'apaise et que c'est moins fort et violent, mais je pense que ça reste présent malgré tout. Moi, après l'attentat, j'ai eu très peur d'être dans le noir pendant très longtemps. Je pense que c'est parce que je me suis retrouvé dans cette réserve et que j'associais en fait le noir avec cette réserve. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'évite de dormir dans une pièce complètement noire. J'ai eu pendant très longtemps peur des scooters ou des motos qui passent à côté de moi, et même encore aujourd'hui, en fait. Mais aujourd'hui, c'est moins violent quand ça se passe. Et je me souviens d'une fois où j'attendais que mon papa vienne me chercher, et il y a une moto qui est montée sur le trottoir et qui avançait vers moi, mais vraiment très lentement. Et au dernier moment, la personne a mis la main à l'intérieur de sa veste. Et vraiment, je me souviens que j'étais au téléphone avec mon père et je lui ai dit « Papa ». Et j'arrivais plus à parler. Et en fait, je commençais à trembler parce que j'avais l'impression que la personne allait sortir une arme. Alors qu'en fait, la personne se garait et qu'elle a sorti son téléphone. Mais de simples moments du quotidien peuvent raviver de terribles souvenirs par rapport à cette matinée et me mettre en difficulté. J'ai toujours fait attention depuis, quand je vais dans des lieux publics, à l'endroit où je m'assois, je regarde toujours les gens qui rentrent, qui sortent. Et pire encore, c'est que je me fais toujours des scénarios en me disant « Ok, si quelqu'un arrive, qu'est-ce que je fais? Qui je peux sauver? Et où je vais moi? Comment je me cache? Est-ce que je peux sortir par là? Il y a une issue de secours? Elles sont où les cuisines dans ce restaurant ?» Et en fait, ça c'est tout le temps, même encore aujourd'hui. C'est juste que c'est moins lourd à porter parce que c'est presque devenu un automatisme. Et donc, j'en fais moins une fixette, et c'est juste que je vis avec ces réflexes-là. Et c'est là que j'ai décidé d'entamer une psychanalyse, ou en tout cas un suivi avec un psychologue. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, parce que ça m'a permis de comprendre déjà qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique, comment ça se matérialise, comment ça se traduit, comment ça apparaît. Et puis surtout, ça m'a appris à le gérer. Ça m'a aidé à prendre du recul et ensuite à gérer justement mes émotions. En mars 2020, on se retrouve dans cette période de confinement. Et donc, je me dis que si j'ai du temps, forcément, mes amis aussi ont du temps. Je mets un message sur un groupe Facebook qui regroupe 600 anciens élèves de l'école et je lance un message en leur disant « Voilà, je suis en train d'écrire au sujet de l'attentat. Celui qui a envie de partager son histoire peut me contacter. Il n'y a pas de règles. Chacun me raconte ce qu'il a envie de me raconter. » Dans les minutes qui suivent, je reçois un message d'un élève qui me dit « Je suis OK pour témoigner, mais maintenant. Parce que si on le fait pas maintenant, je vais changer d'avis. Enfin, il faut le faire là, dans la foulée. » Et cet élève m'appelle, il est minuit. Il me raconte ce qu'il a vécu, etc. Et puis à un moment, il me raconte que quand on est tous dans le réfectoire, il est assis sur une chaise et il pleure. Il me dit « Il y a quelqu'un qui vient et qui m'attrape les mains et qui se met à mes genoux et qui pleure avec moi. Mais je sais pas qui est cette personne. » Je lui dis « Bah, cette personne, c'était moi. » Et je comprends, à ce moment-là, que ce que je suis en train de faire, c'est une bonne chose. Cet échange-là, ce moment, en fait, où j'apporte une réponse à un élève, je comprends qu'il y a sans doute plein de questions qui sont restées sans réponse pour beaucoup d'élèves, et que ce projet de livre, à cette époque, va leur permettre d'avoir des réponses. Et je vais passer, je sais pas, 4-5 mois en fait à enchaîner les appels. Et le livre commence à prendre forme, mais en 5-6 mois, je commence déjà à avoir une centaine de pages. Enfin, ça commence à devenir concret. Je termine d'écrire ce livre. Je contacte une personne que je connais qui travaille aux éditions Albin Michel. Et je lui dis, j'aimerais juste avoir ton avis. Et j'envoie le PDF à cette personne qui me rappelle, mais quelques jours après, qui me dit, mais en fait, ce livre, il faut le publier. En fait, c'est un travail remarquable que tu as fait, on va le publier. Et en février 2022, le livre a vu le jour. Et je ne m'attendais pas du tout à un accueil comme celui qu'il a reçu. Je pensais que j'allais avoir une interview dans un hebdomadaire lié à la communauté juive. Et en fait, j'ai eu une chance considérable d'être reçu dans beaucoup de plateaux télé, sur beaucoup de radios, d'avoir beaucoup d'articles dans la presse qui sont sortis autour du livre et qui, à mon sens, ont permis d'une certaine manière de replacer l'histoire dans son contexte, de redonner la voix aux élèves qui ont vécu cet attentat. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir pu leur donner en fait un espace pour parler et un espace pour raconter. Le fait de pouvoir rappeler les victimes, de rappeler qui elles étaient, de les humaniser. Parce que dans la presse, quand ça s'est passé, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du tueur. L'affaire porte son nom. Alors que pour les autres attentats, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. Parce que pour les autres affaires ou attentats, on parle de Charlie Hebdo, on parle du Bataclan. Et puis on oublie aussi Jonathan, Arié, Gabriel et Myriam. Et avec ce livre, j'avais cette petite volonté et petite ambition de me dire bah, « En fait, je pose ma pierre à l'édifice, je rappelle la mémoire des victimes, je raconte ce qui s'est passé, et puis je le fais surtout par le biais des témoins directs. C'est eux qui racontent, c'est pas moi qui raconte pour eux. » Ça a été très bénéfique, ça m'a permis de fermer un livre, presque. Je profite en fait de chaque instant que je peux... passer avec mes proches, que ce soit avec ma sœur, mes amis aussi, ou même enfin, mes neveux et nièces particulièrement, parce que c'est des enfants. Mais les moments que je passe avec mes neveux et nièces me ramènent forcément au moment que j'ai pu vivre avec Myriam, Marie et Gabriel. Je profite en fait des moments que je partage avec eux, et quand je leur dis au revoir, je prends le temps en fait d'aller les voir chacun et de leur faire un bisou et de leur dire au revoir, parce que bah, j'ai bien compris qu'on est à l'abri de rien. Et la dernière chose qui m'aide au quotidien aussi, et qui est... en lien direct avec ce que j'ai vécu le 19 mars, c'est de bah, presque un peu de sublimer la vie. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais en fait j'ai tendance à, quand je vis des moments très simples, en fait à profiter de ces moments en me disant « la vie est belle ». Et j'ai ça au quotidien pour plein de choses, en me disant en fait « il en faut peu pour être heureux », mais je trouve que cette phrase elle est tellement vraie, et je sais que j'aurais jamais réfléchi de cette façon-là si je n'avais pas vécu l'attentat. Ça m'a pas empêché de me donner à fond dans mes études, de passer les diplômes que j'avais envie de passer, etc. Mais en tout cas, de me dire, voilà, dès que j'ai des moments où je peux profiter, où je peux vivre, il faut saisir les opportunités dans la vie, il faut pas avoir peur, en fait, de se lancer. Il faut vivre pleinement. Aujourd'hui, donc 11 ans après, on est en contact quasi constant avec le directeur, avec les professeurs de l'école, avec Eva Sandler, l'épouse de Jonathan Sandler et la maman d'Arié et Gabriel. Et on a gardé ces liens, en fait, depuis 11 ans. Et je pense que ça sera comme ça pour la vie. Je crois que maintenant qu'ils sont partis, malheureusement, maintenant que tout ça est passé, finalement, il faut réussir à en tirer du positif. En fait, il ne faut pas qu'ils soient partis en vain. Je pense que c'est surtout ça le message. Et je pense que c'est... c'est ça qui reste, finalement, malgré le temps qui passe et malgré la douleur qui persiste, etc. C'est vraiment de se dire, ils sont partis, ils avaient beaucoup à offrir, ils avaient beaucoup à apporter au monde. C'était des personnes, des êtres vraiment particuliers chacun. Et du coup, une façon aussi de perpétuer leur mémoire, une façon de ne pas les oublier, une façon de leur rendre hommage, c'est justement de vivre pleinement comme eux auraient aimé qu'on le fasse et comme eux auraient pu le faire s'ils étaient encore présents aujourd'hui.
Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup.